Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 241 sur RLP 102.3 dans le Périgord. Famille, justice, enfance, l'émission sur la famille occidentale contemporaine et la protection de l'enfance. Alors aujourd'hui un enregistrement car notre invité qui devait être l'intervention des mères protectrice de la Dordogne, là, le CDFF24.fr a annulé en fait deux jours avant le direct d'aujourd'hui avec cette magnifique explication. Après s'être renseigné sur votre émission, ma direction ne souhaite plus que je participe ce vendredi. Alors bon, on va dire c'était une stagiaire qui devait venir. J'ai lu sa thèse de doctorat, il y avait des choses à dire, il y a un petit peu de naïveté, mais il y avait du fond, on aurait pu en discuter. Moi je regrette que certaines organisations ne souhaitent pas parler, peut-être par inquiétude qu'on ne soit pas totalement d'accord avec elle, même si je suis tout à fait d'accord pour aider les gens et soutenir les personnes qui en ont besoin. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, ils nous ont plantés, nous allons donc avoir une émission improvisée avec certains thèmes d'actualité. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Dans la série « Nous vivons une époque formidable », je voudrais parler d'un rendu de la Cour de cassation. Alors, la Cour de cassation de Metz, dernièrement, là, vient de définir que le droit de correction parentale n'existe pas. Alors, contexte. En avril 2024, la chambre correctionnelle de la Cour de Metz avait prononcé la relaxe d'un père parce que, ses enfants, on avait, absence de lésions constatées, absence de troubles psychodéveloppementaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas de lésions, ils allaient bien. Absence de caractère humiliant, ils les avaient pas humiliés non plus. Mais visiblement, il y a eu ce qu'ils appellent des violences éducatives en réaction à des bêtises ou des retards dans l'exécution de certaines consignes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais vous allez voir, le défenseur des droits rappelle qu'aucune violence physique ou psychologique ne saurait être justifiée par une prétendue finalité éducative. Donc, on a déjà parlé ici, si vous voulez, vous n'avez plus le droit, officiellement et légalement, de faire des pressions sur les enfants pour les éduquer. Que ce soit jusque... moi, j'ai passé un jugement où l'envoyer dans sa chambre était interdit. Ça pose un problème parce qu'en fait, il y a un transfert de l'autorité parentale qui s'effectue, vous allez voir, de la famille vers, en fait, l'État et l'institution. Et après, quand on parle avec des spécialistes, par exemple, là, j'ai l'interview d'une pédopsychiatre qui s'appelle Anélia Roure, qui explique très gentiment, en fait, qu'elle est confrontée dans son cabinet et dans sa vie de tous les jours à énormément de parents qui n'ont plus du tout d'autorité sur leurs enfants et qui se reposent sur les institutions, c'est-à-dire sur l'école, sur les pompiers et sur la police, pour réguler les enfants lorsque ceux-ci pètent les plombs, se révoltent jusqu'à en devenir dangereux. Attendez, c'est du vrai, écoutez bien.
Des jeunes qui étaient addicts aux jeux vidéo, au moment où le jeu vidéo s'arrêtait, pouvaient être très agressifs ou pouvaient lancer des choses, casser des objets, essayer de frapper leurs parents, etc. Et là, c'est quelque chose moi, que j'entends tous les jours, des parents qui essayent simplement de prendre le téléphone le soir pour que l'enfant ne l'ait pas dans sa chambre, pour qu'il ait un sommeil de bonne qualité. Et l'enfant ne supporte pas cette frustration d'être. C'est comme si on lui arrachait un membre, presque. Et beaucoup de parents disent « Ah, mais il est greffé à son tour ». C'est vraiment un mot qui revient beaucoup, comme si c'était une extension du corps. Et donc, à partir de là, l'enfant va devenir extrêmement violent. Et il faut faire attention, en faisant ça, de ne pas être forcément, dans la cuisine, où il peut y avoir un couteau à proximité, etc. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui perdent complètement le contrôle d'eux-mêmes dans ces moments-là. Et ça peut être dangereux. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on recommande aux parents, c'est d'appeler les pompiers ou le SAMU, s'ils sont dépassés.
Voilà. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé les pompiers, ne quittez pas.
Une directrice de collège dans le 13e arrondissement qui me disait, nous étions en reportage dans son établissement, elle me disait, j'ai des parents qui n'arrivent tellement pas à s'imposer par rapport au téléphone portable qui viennent me voir pour dire est-ce que vous pouvez faire en sorte que mon enfant de 12 ou 13 ans n'ait plus de portable pendant une semaine, confisquer son portable. Moi, j'y arrive pas. Vous, madame la directrice, vous allez peut-être pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça traduit en fait ?
Alors, des directeurs dans cette situation, il y en a beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup qui, en fait, pour rendre un service aux parents, confisquent le téléphone. Là, je connais un directeur qui a confisqué le téléphone de l'enfant pendant tout l'été. Ça s'est très bien passé. Mmh. Et le fait que ça vienne du directeur permet aussi d'introduire une forme de loi dans la relation aussi, en disant mais voilà, c'est l'école qui a dit ça, je suis bien obligée de le faire, autrement je vais peut-être perdre ma place à l'école, je vais peut-être avoir des conséquences sérieuses. Pourquoi les parents n'arrivent plus forcément à enlever un smartphone? Parce que je crois qu'on a besoin aussi de soutenir les parents aujourd'hui.
Mmh. Et les parents sont plus tiraillés puisque ça a été décidé.
Les parents sont enthousiastes puisque c'est la règle de l'école, donc c'est beaucoup plus facile de dire c'est la règle de l'école, tu ne peux pas l'avoir sur le trajet, tu ne peux pas l'avoir à l'école, donc j'en achète pas. C'est beaucoup plus facile.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Dans cette émission légèrement improvisée, je voudrais vous partager une analyse d'Emmanuel Todd. Puisque nous faisons ici régulièrement de la sociologie, il faut passer par Todd, il faut écouter Todd, ne serait-ce qu'une fois. Son explication de la société par la structure familiale est fascinante et on ne peut pas aborder le sujet de la famille sans écouter au moins une fois Todd, Emmanuel Todd, dans ses analyses.
L'Occident ne perd pas son combat idéologique par manque de volonté politique, il le perd parce qu'il n'a plus la structure démographique capable de produire des idéologies mobilisatrices. Dans cette analyse, je vais vous montrer comment la transformation des familles, l'épuisement éducatif et le vieillissement des populations ont rendu inévitable ce que nous appelons aujourd'hui la crise des valeurs occidentales. Pendant 30 ans, de 1989 à 2019 environ, l'Occident a vécu dans l'illusion d'une victoire idéologique définitive. La chute du mur de Berlin n'était pas seulement un événement géopolitique, c'était la validation d'un système de valeurs qui semblait naturel, universel, incontestable. La démocratie libérale, les droits de l'homme, l'économie de marché, tout cela n'était plus présenté comme une option parmi d'autres. C'était devenu la seule trajectoire rationnelle de l'histoire humaine. Mais ce triomphe reposait sur un malentendu fondamental. On croyait avoir gagné grâce à la supériorité des idées, alors qu'on avait simplement bénéficié d'une supériorité démographique temporaire. Les sociétés occidentales de l'après-guerre étaient jeunes, éduquées, dynamiques. Elles produisaient non seulement des biens et des technologies, mais aussi des récits collectifs suffisamment puissants pour mobiliser des populations entières. Cette capacité de mobilisation n'était pas le fruit de la raison pure. Elle émanait d'une structure sociale spécifique, d'un certain type de famille, d'un certain niveau d'alphabétisation, d'un certain rapport entre les générations. Aujourd'hui, cette structure s'est effondrée. Ce que nous observons en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, ce n'est pas une crise de leadership, c'est une mutation anthropologique. Les taux de fécondité sont passés sous le seuil de renouvellement des générations depuis plusieurs décennies. En France, en Allemagne, en Italie, les femmes ont en moyenne entre 1,3 et 1,5 enfants, très loin des 2,1 nécessaires pour maintenir une population stable. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas simplement le nombre d'enfants. C'est ce que ce chiffre révèle sur la structure mentale des sociétés. Une société qui ne se reproduit plus est une société qui a cessé de croire en son propre avenir. Elle peut encore parler de progrès, de liberté, de droits universels, mais ces mots ne mobilisent plus personne. Ils sont devenus des formules rituelles, répétées par des élites politiques et médiatiques qui elles-mêmes n'y croient plus vraiment. Le discours reste identique, mais la foi collective a disparu. Et sans cette foi, une idéologie ne peut pas survivre. Mais ce que les analyses conventionnelles ignorent, c'est le rôle central de l'éducation dans cette transformation. L'Occident a connu, entre 1950 et 2000, une explosion éducative sans précédent. Le taux d'alphabétisation est passé de 80% à près de 100%. Le taux d'accès à l'enseignement supérieur a été multiplié par 10. Cette massification de l'éducation a été présentée comme un triomphe de la raison, une libération cognitive. Mais en réalité, elle a produit un effet inattendu, l'épuisement idéologique. Quand une société atteint un niveau d'éducation très élevé, elle ne devient pas plus rationnelle, elle devient plus critique. Les populations suréduquées ne croient plus aux grands récits. Elles analysent déconstruisent, relativisent. Elles voient les contradictions, les hypocrisies, les écarts entre le discours officiel et la réalité vécue. Cette lucidité critique est une force dans certains domaines, la science, la technologie, l'innovation. Mais elle est une faiblesse mortelle pour la cohésion idéologique. Une idéologie, par définition, exige une certaine dose de simplification, de croyance collective, de suspension volontaire du doute. Elle ne peut pas fonctionner dans un environnement où chaque affirmation est immédiatement soumise à une critique rationnelle. Or, c'est exactement ce qui s'est passé en Occident. Les élites éduquées ont cessé de croire aux récits qu'elles continuaient pourtant à diffuser. Elle parle de démocratie tout en constatant la montée de l'abstention. Elle parle de liberté tout en observant la croissance des inégalités. Elle parle de progrès tout en vivant dans des sociétés de plus en plus polarisées, fragmentées, anxieuses. Ce qui va suivre révèle la véritable fragilité de cette situation et elle ne se limite pas au domaine des idées. Elle a des conséquences géopolitiques directes. Pendant des décennies, l'Occident a pu imposer ses normes, ses institutions, ses valeurs au reste du monde. Il le faisait non seulement par la force militaire ou économique, mais aussi par la puissance de son discours. Les élites non occidentales elles-mêmes avaient intériorisé le modèle occidental comme horizon indépassable. Elles envoyaient leurs enfants étudier à Harvard, à Oxford, à Sciences Po. Elles adoptaient les codes vestimentaires, les modes de consommation, les références culturelles de l'Occident. Mais aujourd'hui, ce mécanisme de séduction idéologique ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que l'Occident lui-même ne croit plus à son propre récit. Les populations occidentales sont vieillissantes, fatiguées, repliées sur elles-mêmes. Elles ne produisent plus de grands projets collectifs. Elles ne proposent plus de vision mobilisatrice de l'avenir. Elles se contentent de gérer le déclin en ralentissant la baisse démographique par l'immigration, en maintenant artificiellement des niveaux de consommation par l'endettement, en préservant l'ordre social par la surveillance technologique. Cette gestion du déclin peut être efficace à court terme. Elle peut maintenir l'apparence de la stabilité pendant quelques décennies encore, mais elle ne peut pas restaurer la capacité de mobilisation idéologique, car cette capacité dépend de conditions structurelles que l'Occident ne peut plus réunir. Une population jeune, une foi collective en l'avenir, une cohérence entre le discours et la réalité vécue. Prenons un exemple concret. Depuis les années 2000, l'Occident a multiplié les interventions militaires au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie. Dans chaque cas, le discours officiel était le même. Libérer des populations opprimées, instaurer des régimes démocratiques, propager les valeurs universelles. Mais dans chaque cas, le résultat a été le même. Chaos, guerre civile, montée des extrémismes. Pourquoi ? Parce que ces interventions ne reposaient sur aucune base anthropologique réelle. Elles partaient du principe que la démocratie est un système universel, applicable partout, indépendamment des structures familiales, des traditions religieuses, des niveaux d'alphabétisation. Or, ce postulat est faux. La démocratie libérale n'est pas un modèle universel, c'est le produit d'une configuration historique très spécifique. Elle a émergé en Europe occidentale et en Amérique du Nord dans des sociétés qui avaient atteint un certain niveau d'éducation, qui avaient des structures familiales nucléaires, qui avaient une tradition de pluralisme religieux. Tenter de l'exporter ailleurs sans tenir compte de ces paramètres, c'est condamner l'entreprise à l'échec. Mais l'Occident continue de le faire, encore et encore, parce qu'il n'a pas compris que son propre modèle n'est plus opérationnel, même chez lui. Les populations occidentales elles-mêmes ont cessé de croire à la démocratie représentative. Les taux de participation électorale s'effondrent. Les partis politiques traditionnels se vident. Les mouvements de contestation, qu'ils soient de droite ou de gauche, expriment tous la même chose. Un rejet radical des élites, un sentiment de dépossession, une perte de confiance dans les institutions. Cela nous amène à une conclusion rarement formulée, mais que les données démographiques et anthropologiques rendent inévitable. L'Occident ne peut plus gagner de bataille idéologique parce qu'il n'a plus la force démographique de soutenir ses idées. Il peut encore exercer une domination militaire ou économique. Pour combien de temps ? C'est une autre question. Mais il ne peut plus inspirer, convaincre, mobiliser. Son discours est devenu creux. ses valeurs purement rhétoriques, ses promesses incrédibles. Et face à ce vide, d'autres puissances émergent avec leurs propres récits. La Chine propose un modèle de développement autoritaire et efficace. La Russie réactive un nationalisme messianique. L'islam politique offre une vision du monde totale et cohérente. Ces récits sont-ils plus vrais, plus justes, plus rationnels que le discours occidental ? Non. Mais ils ont un avantage décisif, ils sont portés par des sociétés jeunes, dynamiques, qui croient encore en leur propre avenir. Le différentiel démographique entre l'Occident et le reste du monde s'accélère. En 1950, l'Europe et l'Amérique du Nord représentaient 30% de la population mondiale. Aujourd'hui, elle n'en représente plus que 12%. En 2050, ce chiffre tombera sous les 8%. Cette évolution n'est pas seulement quantitative, elle est qualitative. Une civilisation minoritaire, vieillissante, repliée sur elle-même, ne peut pas prétendre définir les normes universelles de l'humanité. Elle peut encore avoir de l'influence dans certains domaines, la technologie, la finance, la culture, mais elle n'a plus la légitimité démographique pour imposer son système de valeurs. Ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas une crise passagère, c'est une bascule civilisationnelle. L'ère de la domination idéologique occidentale, qui a duré environ 2 siècles, est en train de s'achever. Non pas parce que l'Occident aurait été vaincu par une puissance rivale, mais parce qu'il s'est épuisé de l'intérieur. Ces structures démographiques ne permettent plus de produire des idéologies mobilisatrices. Ces élites éduquées ont perdu la foi collective nécessaire pour porter un grand récit. Ces populations vieillissantes n'ont plus l'énergie pour défendre un modèle auquel elles ne croient plus vraiment. Les scénarios futurs sont limités. Soit l'Occident continue sur cette trajectoire et son influence décline progressivement jusqu'à devenir marginale. Soit il tente de compenser son déclin démographique par une radicalisation idéologique, un repli identitaire, un autoritarisme technologique, une militarisation accrue. Mais dans les deux cas, la défaite idéologique est déjà actée. Elle n'est plus une possibilité, c'est un processus en cours, observable dans les données, mesurable dans les comportements, visible dans les choix politiques. Cette analyse repose sur des données démographiques et anthropologiques vérifiables. Elle ne constitue ni une prophétie, ni un jugement moral, mais une lecture structurelle des sociétés contemporaines. Si cette interprétation vous dérange, c'est normal. Je vous invite à partager vos objections dans les commentaires, à confronter cette lecture avec d'autres sources, à enrichir ce débat par vos propres observations. Dans la prochaine analyse, nous examinerons pourquoi la guerre en Ukraine révèle précisément cet épuisement structurel de l'Europe. Et pourquoi cette guerre marque peut-être le dernier test géopolitique d'un continent démographiquement condamné.
Mes amis, en cette période de Noël et de fête de fin d'année, qui est la période la plus difficile traditionnellement pour tous les parents privés d'enfants, désenfantés, je voulais apporter mes vœux de courage. C'est toujours début janvier qu'il y a le plus de personnes qui dépriment ou qui suicident et autres. Écoutez, ça va pas s'améliorer, c'est comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. On voit avec les avancées législatives que on a un discours de plus en plus paniquant envers les femmes. On met en avant des statistiques toujours pour fragiliser la société, la famille telle qu'elle est, notamment le pouvoir du parent. En commençant par celui du père, vous savez, vous connaissez ma théorie, hein. On commence par détruire la position du père, après la mère est isolée et les sociaux viennent et prennent les enfants. On voit que l'État a décidé massivement que tout enfant concerné par une information préoccupante, AEMO, AZE, enfin plutôt AME, AZE, l'IP ça verra après, va se voir attribuer un avocat. Moi j'ai vu comment ça a fait, puis j'ai vu autour de moi, là vous avez un enfant, c'est de l'éduquer et tout, puis tout d'un coup l'enfant a un avocat, c'est plus vous le référent, quoi, c'est plus vous l'éducant. Donc on est vraiment sur un phénomène de destruction de la famille. Je suis très surpris par une émission que j'ai vue sur Tocsin dernièrement, qui déniait ce qu'on appelle l'aliénation parentale, sous prétexte que ce serait un psychiatre pervers pédophile qui l'aurait découvert. Alors, il n'a pas découvert, il n'a pas inventé l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'un enfant, en fait, qui est manipulé, comme dans une secte ou autre, se met à avoir des opinions de manière non rationnelle et peut se mettre à rejeter un de ses parents lorsqu'il ne le voit pas durant longtemps. Ça, c'est pas Werner qui a découvert ça. Le syndrome de Médée dans la psychologie existe depuis longtemps. Morton et d'autres, des psychologues, ont décrit le phénomène depuis longtemps. Puis sincèrement, tout parent vous dira qu'un enfant relativement en bas âge, lorsqu'on lui répète un truc tous les jours, il commence lui aussi à dire le même truc et puis à le répéter. Hein, c'est pas pour rien que nous avons tous plus ou moins une tradition politique issue de notre environnement familial. On est influencé par l'environnement familial. L'enfant est influençable, l'enfant peut être monté contre notre parent. Et je peux vous assurer, pour en connaître un certain nombre, que lorsque vous êtes un parent, que vous avez été séparé de votre enfant durant longtemps, et de voir votre enfant se mettre à vous agresser ou vous insulter pour des raisons absolument incompréhensibles, c'est une énorme douleur. Et dire que ça n'existe pas parce que une des personnes qu'il a décrites était un taré, c'est une limitation intellectuelle. De plus, moi je suis intimement convaincu que tout ça se place dans ce qu'on va appeler l'ambiance du protocole de Toronto. Protocole de Toronto, vous le trouvez sur Amazon et autres, c'est un document. On s'en fout de savoir s'il est vrai ou s'il est pas vrai. C'est un document qui a une vingtaine ou une trentaine d'années, qui, lorsqu'on le lit, en fait, décrit ce qui est en train de se passer actuellement. Si c'est un faux, moi, ça me dérange pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a plusieurs dizaines d'années, les gens ont décrit exactement ce qu'on est en train de nous faire. Destruction de la famille traditionnelle. Le fait de dire que l'aliénation parentale n'existe pas, en fait, bloque et encourage, bloque l'autorité parentale, le lien parent-enfant, et encourage la séparation, la déstructuration de la famille. Donc, aller en croisade en disant c'est pas vrai que lorsqu'on sépare les parents, l'enfant se met à rejeter sans raison l'autre parent, sans raison valable, autre que par la manipulation ou parce que l'enfant s'adapte. Alors ça a été extrêmement bien décrit. L'enfant s'adapte à son environnement. L'enfant se crée, parce qu'il a besoin de ses composantes, se crée un parent imaginaire qu'il idéalise ou qu'il diabolise. Dire que ce n'est pas vrai, c'est faire le jeu des forces qui sont en train de détruire la famille dans l'Occident. Il faut réfléchir un peu à cette chose-là. C'est dommage de se laisser embrigader sous prétexte de lutte contre l'inceste. Alors, l'inceste et les féminicides, on va en parler. Les statistiques, en fait, si vous regardez, il y a 365 jours par an, nous sommes 70 millions. Si vous comparez les différentes statistiques de mortalité et autres, je suis désolé de dire que le féminicide est quelque chose de récent qui a été extrêmement mis en avant. Pour avoir quitté la France durant plus de 10 ans, quand je suis revenu, j'étais stupéfait du mauvais état des femmes et des familles de ce pays. Elles sont dans un état, elles sont complètement endommagées, je sais pas. Enfin, on a dû les pousser à essayer de faire un truc avec des animaux, c'est pas possible, parce qu'elles sont vraiment... tu t'approches d'elles, t'as l'impression qu'elles sont vraiment endommagées. Alors que, franchement, enfin, mon ex était asiatique, quand j'avais pas l'impression, moi, il y avait encore cette espèce de petite innocence à l'intérieur, cette espèce de joie, cette possibilité assez facile, en fait, lorsque ça se passait bien d'aller faire un petit câlin ou ce genre de choses. Le rapprochement n'était pas assimilé à quelque chose de négatif, de violent et d'animal. Moi-même, je suis de 72, là, dans les années 80, quand j'ai commencé, en tant qu'adolescent, à draguer les filles dans les boîtes de nuit. Elles n'étaient pas toutes complètement détruites, elles n'étaient pas faites violer 50 fois, droguées. Donc il s'est passé quelque chose en Occident. Et je pense aussi que les médias font peur et paniquent les femmes pour empêcher les mises en relation. Donc on voit des hommes qui sont seuls, on voit des femmes qui sont seules. Les différents repères ont été enlevés. Et je pense que c'est volontaire pour que ce soit aussi flagrant, aussi constant, aussi mis en place. C'est vraiment volontaire et je pense qu'on assiste à une tentative délibérée de destruction ou d'autodestruction de l'Occident en s'attaquant à la famille. Et donc, commencer par dire que un homme qui courtise une femme ou une femme qui se rapproche d'un homme, forcément c'est mal, c'est méchant, c'est malsain. Puis commencer à dire aux gens, contrairement à ce que j'ai vécu dans d'autres cultures, que non, de toute façon, ça va pas, il faut se séparer, c'est pas bien, tout ça. Puis encourager très fortement la femme à être seule avec les enfants en culpabilisant le père, en le traitant de pervers, de salaud, de violent et autres, puis de voir les enfants en fait être élevés de manière monoparentale ou par l'État, c'est une destruction. Et faire des émissions entières en disant oui mais vous savez, les hommes majoritairement sont incestueux, l'aliénation parentale n'existe pas, c'est une façon d'attaquer de front la famille traditionnelle européenne Et c'est une erreur magistrale en tant que journaliste, surtout. Enfin, je suis très déçu par cette personne de Tocsin là, qui a un niveau intellectuel et qui est rentrée dans ce jeu-là. Il y a carte zéro qui, à mon avis, a raté un petit quelque chose par rapport à ça. Hein. Voilà. Enfin, moi, je peux vous assurer, pour l'avoir vécu de manière directe et indirecte de multiples fois, l'enfant, vous le voyez pas durant longtemps. L'enfant, il s'adapte à l'environnement où il est. L'enfant, c'est une vraie éponge. Il prend les ambiances de l'environnement qu'il y a et au bout d'un moment, il vous rejette. Si le parent qui est avec lui, l'environnement qui est avec lui, ça, il se met à vous rejeter. C'est ça. Et puis, il y a un phénomène. Alors, il y a la suggestion. Nous, de manière juridique, quand on porte plainte pour torture psychologique, on porte plainte pour suggestion, c'est-à-dire emprise, manipulation et autres. Mais le terme aliénation parentale, en fait, c'est une question de vocabulaire. Et dire que ce phénomène n'existe pas sous prétexte qu'un taré l'a écrit dans un bouquin, à un moment donné, c'est très limitant comme pensée. Vous voyez, c'est extrêmement limitant. Bon, ceci étant dit, à vous tous là qui voyez pas vos parents ou qui ont vos problèmes, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, beaucoup de courage. Si jamais les événements sont contraires, bah écoutez, pensez un petit peu à vous. Moi, je vais encore le redire, si vous êtes jeune, travaillez une langue étrangère et envisagez très sérieusement, si vous voulez faire une famille, de vous déplacer dans des lieux de la planète où on peut encore faire une famille. Et une réussite personnelle. Moi, je pense notamment à l'Amérique du Sud, puis à certains coins qui se développent. Après, ça dépend, hein, c'est des choix personnels. Une expatriation, ça se travaille de manière individuelle. Et puis, si vous êtes bloqué ici et tout, bah, écoutez, pensez à vous. Faites votre part. Moi, j'essaie de faire la mienne, comme on peut et autres. Et beaucoup de courage. Et je sais que ces périodes-là, les anniversaires, les fêtes, sont extrêmement douloureuses. Voilà. Et ceux d'entre nous qui mènent la lutte contre le mondialisme, contre la destruction de l'Occident, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ces caricatures et dans ces schémas en disant regardez, les gens sont jamais condamnés et tout. C'est pas vrai. Il y a un problème des condamnations, enfin des effets qui sont extrêmement graves. Alors, des faits graves, moi j'en vois passer, hein, avec rééducation du sphincter par kinésithérapie et tout, des trucs de folie. On sait qu'il y a quelque chose. Nous, on pense qu'il n'y a pas de condamnation pour éviter de faire des jurisprudences. Les jurisprudences, en fait, vous savez ce que c'est, les jurisprudences, on s'appuie dessus pour condamner les gens. Et qu'il y a beaucoup de gens au niveau qui font des saloperies, on essaie d'éviter qu'il y ait des jurisprudences. Par contre, en même temps, celui qui va se plaindre, celui ou celle qui va se plaindre au tribunal, en fait, passe pour un emmerdeur. Ah, il veut le faire travailler, donc lui, il se fait laminer. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi les gens qui vont se plaindre au tribunal, en fait, qui se retrouvent que le système qui est contre eux. Moi, je prends toujours l'exemple, ma fille s'est faite agresser à l'école, j'ai porté plainte contre l'école. Les voisins, les voisines qui ont eu le problème, ils ont déménagé sans rien dire, ils ont encore leur gosse. Vous voyez, ceux qui vont se plaindre, en fait, se font décalquer. Et lorsqu'il y a une présomption, pour cacher le fait qu'on ne condamne pas les gros problèmes, lorsqu'il y a une présomption, par contre, on va faire des interruptions de parentalité, des suspicions et des interruptions d'autorité parentale durant 3, 4, 5 ans, et après les enfants, on les a perdus, alors qu'il suffit par simple méchanceté d'accuser quelqu'un. Et tout ça, c'est un mécanisme de destruction de la famille en Occident qu'on trouve pas forcément ailleurs. Moi, je peux vous dire que là où j'ai vécu auparavant, un enfant qui se fait agresser à l'école, c'est pas un mois et demi pour que les flics aillent voir. Et c'est pas 4 ans d'enquête, les enfants, on y fait attention. Une suspicion d'inceste et autres, c'est pas 3 à 4 ans. Quelqu'un qui va se plaindre en disant je vais me faire protéger, c'est pas les sociaux qui viennent pour leur piquer les gosses. Plusieurs centaines de milliers d'enfants placés, 11, 13, 12 milliards d'euros, on sait plus combien il y en a. Là, 70 000 avocats qui viennent d'avoir 300 000 clients d'un coup. Des gens derrière chaque personne pour judiciariser, c'est absolument hallucinant. Protégez-vous par rapport à ça, essayez de gérer vos problèmes en tant qu'adulte sans rentrer dans cette broyeuse qui vous piquera tout votre pognon, hein, et tout ce que vous avez, tout votre boulot. Et si c'est déjà le cas, bah écoutez, pensez à vous, tant pis, hein, quand on peut pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Et voilà, et joyeux Noël quand même, et à bientôt.
Voilà, vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé les pompiers, ne quittez pas.